France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Eux, eh bien, ils ont potassé, on peut dire ça, l'actualité comme jamais. En même temps, vu la météo, ils s'ennuyaient, Roland Garros. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Sybille Vincendeau, bonsoir, de
bonsoir.
Libération. Également, Éric Delannoy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de Tenzing Conseil. Marion Mourgue, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Du Figaro. Et Jérémy Pelletier, bonsoir. Vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Et ce soir, nous parlerons des prestations sociales. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Glyphosate, l'écologie, serait-ce la mauvaise herbe de Emmanuel Macron? Éric Woerth dans le tourbillon libyen. Mais juste avant, nous allons revenir sur cette attaque survenue aujourd'hui à Liège, en Belgique. Un homme a tué par balle trois personnes, dont deux policières, avant de prendre en otage dans un établissement scolaire et d'être finalement abattu par les forces de l'ordre. Une tuerie un juge antiterroriste d'ailleurs a été saisi aujourd'hui. L'homme bénéficiait d'une permission de sortie de prison pour préparer sa réinsertion. Tout de suite, nous allons entendre un témoin, justement, une personne qui a assisté à tout ce qui s'est passé, et vous allez voir, l'émotion est toujours palpable. On écoute donc cette habitante de Liège.
Je marchais ici sur le boulevard et j'ai entendu des coups de feu juste en face de la rue. Je marchais là-bas, je voyais des gens qui étaient assis, d'autres qui couraient en disant « partez, partez, courez, courez ». Je ne comprenais pas. Après, j'ai fait demi-tour et ça a retapé un peu plus loin, pas mal de fois, à une bonne demi-heure d'intervalle, je dirais.
Voilà, une habitante de Liège, donc témoin de l'événement. Et par téléphone, nous rejoignons tout de suite Joachim Pleuillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député PS de l'Orne, vous êtes vice-président de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous êtes également ancien directeur de la prison de Fleury-Mérogis. Et ce soir, on parle une nouvelle fois, pour cet homme, d'une radicalisation en prison. L'univers carcéral, c'est véritablement, j'emploie cette expression, le nerf de la guerre.
Je peux pas dire que c'est le nerf de la guerre, mais la prison est un terreau, bien évidemment, pour ceux qui veulent développer cette doctrine, et nous avons effectivement des détenus qui ont pu être influencés par des détenus qui ont été radicalisés, soit à l'extérieur ou soit en prison.
Alors,
donc, évidemment, oui. La prison est un élément qui est important pour certains détenus dans la radicalisation. D'ailleurs, on l'a pu l'observer, mais il n'y a pas que la prison. Malheureusement, ce qui est important, c'est de rappeler que c'est une doctrine qui a des effets sur des individus, aussi bien en prison qu'à l'extérieur de la prison. Et d'ailleurs, ce détenu en question, qui était en permission pour préparer son insertion, il avait bien simulé, parce que probablement il s'était radicalisé en prison et qu'il n'a pas été repéré par les services pénitentiaires belges, puisqu'il a effectivement saisi l'occasion d'une permission de sortir pour commettre cet attentat et tuer notamment deux policières et puis un civil, soit par arme ou avec des armes blanches également. La grosse difficulté, c'est comment on peut détecter un individu qui se trouve en prison et qui est en train de se radicaliser ou qui a déjà porté allégeance à Daesh. Et ça, c'est une réelle difficulté actuellement, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, en Allemagne et bien sûr en France.
Oui, alors Joachim Pleuillot, est-ce que quand même tout de même sur le sujet, parce qu'on en parle hein, bien sûr de cette radicalisation en prison, et est-ce qu'on progresse sur le sujet? Parce qu'on a l'impression que chaque gouvernement a son idée sur la question. On crée des quartiers pour les détenus radicalisés, puis ensuite on peut les éparpiller, puis de nouveau on y revient. Est-ce qu'il y a une référence en la matière?
Non, il n'y a pas de référence. Justement, nous sommes que dans des situations expérimentales. Je pense que la Belgique, effectivement, avait lancé un plan en 2015 et donc avait créé, effectivement, des unités pour déradicaliser les détenus, avec deux unités en particulier, en mettant quasiment à l'isolement les détenus. En France, on a mis en place des quartiers d'évaluation de la radicalisation, notamment à Ousny, à Fleury-Mérogis, à Fresnes, et puis on va en créer également des autres. On a prévu également de créer des quartiers pour détenus radicalisés dans les maisons centrales à effectifs réduits pour mieux repérer, pour mieux prendre en charge, pour mieux sécuriser également les établissements pénitentiaires. Mais on n'a pas encore évalué le résultat. Oui. Vous savez bien qu'on aura des détenus qui ont été condamnés en lien avec la radicalisation, qui ont été condamnés entre 5 et 10 ans d'emprisonnement. Certains vont sortir rapidement.
Alors c'est ça, oui.
En 2019.
François Molins, procureur, en parlait.
Il faudra qu'on se pose. Est-ce que ce temps de détention a suffi pour que ces personnes détenues se sont désengagées de l'islamisme radical? Et on le sait pas. Et donc c'est un sujet majeur qui va se poser devant nous, parce que tant qu'ils sont en prison, on se dit, bien sûr, ils peuvent commettre malheureusement des attentats, enfin pas des attentats, mais des agressions à l'encontre des personnels de surveillance.
Ce qui a déjà été le cas,
d'ailleurs. Oui, mais ils sont quand même en prison, donc il y a une espèce de protection de la société. Tant qu'ils sont en prison, alors, il suffit effectivement qu'on prenne les bons dispositifs dans les établissements pénitentiaires.
Joachim Puyot.
Et lorsqu'ils sortiront, Joachim Puyot. Ça, c'est un sujet
justement
majeur qui va se poser.
Ce sujet majeur, voilà, malheur également. Selon François Molins ce matin, il y a une vingtaine d'entre eux qui pourraient être libérés en 2018, une vingtaine en 2019. Actuellement, il y a plus de 1200 personnes écrouées pour des faits de droit commun qui sont radicalisées, tandis que plus de 500 sont en prison pour terrorisme. Ça va être possible à gérer justement ces sorties de prison?
Alors, je pense qu'il faut que les autorités judiciaire et les pouvoirs publics s'y penchent d'une manière très précise. Parce que, effectivement, on pourrait se dire, ils seront tous fichés S, ils seront tous suivis, mais on connaît très bien la limite du suivi. Un suivi, ça demande énormément de moyens. Moyens en logistique, ça on les a, mais moyens humains également. Donc, est-ce qu'on aura la capacité de suivre d'une manière très précise tous ceux qui, ou toutes celles, qui sortiront de prison et qui peuvent toujours être dangereuses, parce que le problème, c'est un problème de sincérité, parce que vous avez effectivement des détenus qui disent c'est fini, j'ai plus rien à voir avec la radicalisation, j'ai passé à autre chose, j'ai envie de m'insérer. Vous voyez ce cas qui s'est passé en Belgique. Voilà un détenu qui, avec les services éducatif de l'établissement, prépare sa réinsertion. Il a dû avoir un bon comportement. Il a dû avoir un projet qui tenait la route, puisqu'il a eu une permission pour avancer dans son projet d'insertion. Oui. Et il commet, effectivement, un attentat qui, malheureusement, tue deux policières et puis un civil. Et vous voyez comment... C'est une question qu'il faut qu'on se pose.
En
et
tout
donc,
cas,
il n'y a pas de recette. Je pense qu'il faut continuer les expérimentations, il faut continuer à renforcer le renseignement pénitentiaire en prison également, parce que nous, en France, on a mis en place un système pénitentiaire qui n'est pas encore tout à fait à son apogée, il faut encore le renforcer
Joachim Puyot,
pour bien détecter et voilà.
On a en tout cas, on a essayé de comprendre ce soir avec vous et essayer surtout de voir quelles clés on pouvait peut-être utiliser pour combattre ça. Merci beaucoup en tout cas Joachim Puyot. Je rappelle, vous êtes député socialiste de l'Orne, vice-président de la Commission de la Défense Nationale des Forces Armées, également ancien directeur de la prison de Fleury. Maire Ogis, merci d'être passé par les informés de France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors autant vous le dire, aujourd'hui c'était le coup de déprime. J'ai l'impression d'être en permanence devant une machine à café qui ne rend pas la monnaie. Voilà, c'est désespérant et c'est un peu ma vie. Vous savez, dans cette émission, on parle souvent de projets de loi et en fait, ça ne sert à rien. Voilà, puisque pour justifier le rejet de l'amendement concernant l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi, une députée de La République En Marche a tweeté « Pas besoin de légiférer pour interdire ». Bon, bah ok, promesse donc d'Emmanuel Macron en novembre dernier d'interdire le glyphosate dans un futur proche, 2021. Les députés ont refusé hier soir de graver donc cette volonté présidentielle dans la loi agriculture et alimentation. Parmi les opposants, on trouve 36 députés du parti présidentiel. Et chose étonnante, notamment 3 qui avaient pris parti dans une tribune contre l'herbicide polémique. Voilà, parfois on ne fait pas attention à ce qu'on signe. Mais bon, pas de panique, ça devrait tout de même être fait. La loi, en même temps, qui la respecte, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Vous savez, on a inscrit beaucoup de choses dans la loi depuis 30 ans dans notre pays, ça s'est parfois pas passé. Nul n'est besoin parfois d'inscrire dans la loi des choses qui finissent par ne pas arriver. Faisons un peu confiance. Arrêtons en permanence de penser que la contrainte, la sanction sont les seuls moyens de conduire des politiques publiques efficaces. Si ça avait marché, depuis 30 ans, la France s'en porterait mieux.
Alors, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ce matin avec Jean-Michel Apathy sur France Info. Marion Bourque, c'est quoi? C'est un reniement de la part
Ah oui, là, ça semble être un reniement, mais qui peut avoir des conséquences politiques assez graves pour le gouvernement, parce que là, ça légitime l'idée que le groupe En Marche, qui est majoritaire, est devenu une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on peut promettre des textes, on ne les fait pas, finalement, c'est pas grave. Donc il y a ce volet-là, et puis on verra aussi que ça va sûrement renforcer l'inimitié entre plusieurs ministres, avec Nicolas Hulot au centre, qui lui défendait l'inscription du glyphosate dans la loi.
Ça, on va parler dans un instant, mais pourquoi aussi ? Parce que cet amendement était porté par un des proches de Nicolas Hulot, qui est Mathieu Orphelin. Voilà. Jérémy Pelletier, sûr, justement, là-dessus, pour vous, c'est une promesse non tenue de la part du gouvernement ou des députés également qui n'ont pas voulu suivre, justement, le président de la République ?
Je ne sais pas si c'est une promesse non tenue. Bon, si on est très honnête, Benjamin Griveaux n'a pas tort quand il dit que beaucoup de choses ont été inscrites dans la loi au cours des dernières années, des dernières législatures et des derniers quinquennats, et sans rien donner, notamment en termes de décrets d'application. Après, bon, je pense que ce sujet-là, il est plus important qu'il n'y paraît. Je ne parle pas forcément d'un point de vue politique. Effectivement, ça peut avoir un impact politique dans ce qu'est la majorité aujourd'hui, mais notamment auprès de la population et d'un point de vue de l'opinion. Je crois que c'est un sujet, en fait, le lien entre santé et environnement, qui est de plus en plus important dans la tête des Français, qui est explosif, je crois, pour les Français. On pense à tous les scandales sanitaires qui peuvent tomber ici et là au cours des derniers mois et des dernières années dans ce pays. À chaque fois, ça crée des chocs, des émotions qui sont réelles. Sur ce sujet-là, beaucoup de choses, évidemment, peuvent être abordées. Il y a le sujet du sol et évidemment, il y a le sujet de l'alimentation. Et quand les Français, dans cette époque-là, ont l'impression quasiment d'empoisonner leurs enfants lorsqu'ils leur font manger, je crois que ce sujet-là, s'il n'est pas bien traité, ou si on met en opposition ce que peut dire la science et, en gros, ce que peuvent dire peut-être des lobbies, je pense que ça peut créer un petit problème.
Confusion, oui. Sylvie Vincenton.
Je trouve que ce que dit Griveaux est une ânerie de première catégorie. Parce que, certes, tout ce qui est voté dans la loi n'a pas toujours été appliqué. Il y a des lois dont on n'a pas les décrets d'application, etc. Mais dans ce domaine de l'environnement et de la santé, s'il n'y avait pas eu des lois et des interdictions, on aurait du veau aux hormones aujourd'hui. Mmh. On aurait des poulets aux hormones, comme il y a aux États-Unis. La viande qu'on mange là-bas, elle est dopée à ça. On aurait aussi des fraises et des salades qui restent 15 jours impeccablement parce qu'elles sont passées au rayon gamma. Mais nous, on ne fait pas ça, c'est interdit. Donc,
la
loi est importante. Mmh. Et dans l'histoire du glyphosate, il y a un autre élément quand même, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a promis que la France serait en avance sur la Commission européenne, qui disait 5 ans, et Emmanuel Macron a dit plus écolo que
3 ans.
Il l'a dit il y a moins de 6 mois. Donc voilà, c'est dans les mémoires.
Donc c'est très très frais.
Oui. Et Eric.
Oui, non.
Sur le fait sur la loi, est-ce que c'est pas un problème quand même que des députés disent ça sert à rien d'inscrire dans une loi parce qu'on a l'impression vraiment que la loi ne sert à rien.
Mais surtout, alors, en plus, elle croit au progrès technique en 3 ans.
Non mais encore une fois, je veux dire, moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas forcément une ânerie. Je veux dire, aujourd'hui, presque la moitié des décrets d'application sur les lois qui ont été votées depuis 2012 n'ont pas été promulgués. Donc, et c'était 27% sous la législature Sarkozy. Donc, c'est pas une ânerie de dire que quand on vote une loi, c'est pas ça qui empêche que ça se passe. Par contre, politiquement, ça permet d'engranger des gains. Moi, je pense que c'était une erreur politique de vouloir mettre ça dans la loi maintenant. Parce que le sujet, c'est que Emmanuel Macron n'a pas renié une quelconque parole. Reprenez les propos d'Emmanuel Macron dans sa campagne. C'était de dire « on se donnera 3 ans pour pouvoir interdire le glyphosate » quand on aura une alternative. Mmh. Donc, quand on aura une alternative. Aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Qu'est-ce qui se passe si on interdit le glyphosate et qu'on le décrète maintenant sans avoir cherché à trouver des alternatives? On va trouver, faire en sorte que les agriculteurs...
Éric Delannoy, est-ce que c'est pas aussi une posture politique de la part d'Emmanuel Macron qui ne veut pas se mettre à dos le monde agricole, tout simplement?
Mais bien
aussi,
sûr, mais depuis le début, il veut pas se mettre à dos le monde agricole. Et il l'a exprimé, et il l'a dit quand il était au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est la population sur laquelle il y a le taux de suicide le plus important. Dans cette loi,
il y a quand même... certain type d'agriculteur. Dans les statistiques de la MSA, les suicides, il y en a pas un seul dans le bio. Hein.
Oui. Alors, non, mais dans le bio, mais justement, mais le problème après, on va parler d'autre chose. On a évoqué le fait que il y avait un sujet autour de l'acceptabilité de l'environnement et des pesticides. Il y a aussi un problème de modèle économique. Bien évidemment que l'agriculture bio n'utilise pas de glyphosate, mais est-ce que les Français, est-ce que n'importe qui est prêt à payer 2 fois plus cher ces céréales pour ne pas avoir de glyphosate? Faut voir aussi ça, qu'il y a un problème de productivité sur lequel il va falloir trouver des alternatives.
Qui arrive de la noix. Alors après, je vous donne la parole à Marion, bien sûr, mais là, on a l'impression que c'est vraiment le en même temps d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut faire à la fois plaisir aux agriculteurs et faire plaisir aux écologistes?
Mais non, mais c'était une erreur parce qu'il faut voir aussi qu'on hystérise la parole autour de cet amendement qui n'a pas été retenu dans la loi agriculture. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui étaient réclamées par les écologistes qui sont dans la loi agriculture. Mais on n'en parle pas.
On avance avec des symboles aussi, hein, Marion Morieux.
Et c'est les limites dues en même temps, mais on en a parlé souvent. Ouais. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron fonctionne par séquence. Donc il y a eu la séquence fin 2017 qui était très écologiste, environnement, la France.
Par rapport à Trump, Donald
exactement,
Trump.
En réaction et donc la France en première ligne. Et là, on est plus dans une séquence, en effet. Le président Deschamps, il faut séduire à la fois le monde rural donc dans sa largesse, il y a des promesses qui sont faites aux chasseurs, on enlève le glyphosate, donc là on est plus dans cette séquence-là. Et on verra ce que ça donne après, mais ça peut.
La séquence, elle dure depuis un moment. Faut quand même. On a été en pointe sur le fait d'être un opposant au fait que la Commission européenne reconduise le glyphosate pour 5 ans. Et il a réitéré ce qu'il avait dit. On l'enlèvera sous 3 ans quand on aura des alternatives. Donc il n'y a pas d'incohérence. Il y a juste un problème de temporalité, je pense. Et on hystérise la parole sur ce sujet-là, alors qu'il y a plein d'autres choses dans la loi agriculture dont il faudrait parler.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Ce glyphosate, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup justement ce soir également dans les informés. Hier, un amendement qui souhaitait l'inscrire dans la loi sur l'alimentation eh bien, a été rejeté par les députés, notamment même des députés de La République En Marche. Et ce matin, le député d'Europe Écologie Les Verts, européen d'ailleurs, Yannick Jadot, était fort colère au micro de France Inter. On l'écoute.
Quand un ministre de l'Agriculture défend en permanence contre l'opinion publique, contre la science. C'est quand même un ministre qui a été devant l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec les abeilles. Ça s'appelle du déni de réalité. Ça pourrait s'appeler du négationnisme écologique.
Voilà, Yannick Jadot ce matin sur France Inter. Sybille Vincent, on l'a entendu tout à l'heure dans les titres. Donc Nicolas Hulot lui regrette également. Là, ce que dit Yannick Jadot, est-ce qu'on est au cœur aussi d'un problème de lobby de nouveau, avec Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture.
Je pense qu'on est dans un problème de lobby qui ont trouvé un ministre en or massif. Parce qu'il est quand même extrêmement répétitif dans les bêtises. Et que quand il parle des abeilles, c'est...
C'était un des premiers quoi, d'ailleurs, au gouvernement entre Nicolas Hulot et lui. C'était dès le mois de juin, d'ailleurs.
Oui, et quand Nicolas Hulot a eu l'idée des états généraux de l'alimentation qui nous ont amenés à cette loi, qui a pris les manettes? Eh bien, c'est Travers, avec sans doute la bénédiction du Premier ministre.
Je pense et pas l'absence de Nicolas Hulot qui ne s'était pas rendu aux États généraux.
Jérémy Pelletier, est-ce que là, on est dans une... C'est deux mondes qui s'affrontent, véritablement, entre Nicolas Hulot, très écologiste, Stéphane Travers, également. Est-ce que là, ce sont deux mondes irréconciliables, finalement?
Je ne sais pas si c'est deux mondes irréconciliables. En tout cas, ce que je note dans... effectivement, ce qu'a dit...
Yannick Jadot,
qu'on vient d'entendre... C'est le terme de la science. Et ce dont je crois qu'il faut faire très attention dans cette séquence-là, c'est ne pas donner l'impression, effectivement, qu'il y a des forces cachées, commencer par des lobbies, qui, effectivement, feraient pression face à l'opinion publique. Vous savez, la Fondation Jaurès, on avait sorti une grosse enquête au début de l'année sur le complotisme. Et l'un des résultats qui était frappant, c'était cette grande majorité de Français, vous avez 55% des Français, qui considéraient que le ministère de la Santé était de mèche avec l'industrie pharmaceutique, vous savez, pour cacher en fait, la nocivité des vaccins. Ouais. Ce terreau-là, de sentiment justement qu'on nous cache un certain nombre de choses qui a l'esprit de complotisme qui existe au sein de la société française, il peut être alimenté par ce type effectivement de séquence où là on a l'impression qu'on va à l'encontre de la science, à l'encontre d'un certain nombre de faits scientifiques qui sont a priori avérés s'agissant du glyphosate. Donc je pense qu'il faut faire très attention.
Bien sûr, Jérémy Pelletier, mais on voit, c'est vrai, on le sait très bien, par exemple sur le vin, sur l'alcool, sur la cigarette, on le voit très bien. Il y a eu énormément d'enquêtes dessus, et même au sein de l'Union européenne, de la Commission européenne. Oui, Eric Dehaene.
Non, mais il faut aussi un peu se calmer quand même. Alors le glyphosate, moi je suis pas un défenseur du glyphosate, mais enfin glyphosate c'est 700 000 tonnes par an, 300 000 tonnes utilisées par l'Argentine. 9000 tonnes utilisées par la France. Enfin, je veux dire, aujourd'hui,
on n'a pas la même superficie non plus.
Non, mais enfin, c'est pas utilisé de la même manière, surtout. Ouais. C'est pas utilisé de la même manière. C'est pas en épandage en France. Hein. Donc, faut aussi se calmer sur le fait, sur l'importance du sujet. Il est vrai qu'on cherche à mettre en place des équilibres. Et Emmanuel Macron doit concilier des équilibres entre un ministre de l'Agriculture et un ministre de l'Écologie, qui ne sont pas évidemment sur la même phase. Mais aujourd'hui, la séquence agriculture, elle existe depuis...
On voit tout de même à quel point c'est important. On se souvient, quand c'est passé au moment de la Commission européenne, que Monsanto, donc, qui vend cet herbicide, ouais, avait quand même mis son logo sur le bâtiment de l'Union de la Commission européenne pour montrer voilà, qu'ils étaient là aussi, qu'ils travaillaient.
Mais qu'ils soient là, c'est normal. Enfin, faut pas non plus diaboliser des industries qui, il faut le dire, permettent à une industrie complète d'être très productive. Qu'elles deviennent productives et nocives pour la santé, c'est un vrai sujet. Oui. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc du coup, il y a quand même ce point-là à regarder, qui consiste à regarder. Moi, pour moi, on est sur un équilibre qui est assez intéressant, où en gros, on va travailler avec les industriels pour pouvoir trouver des alternatives. Il faut voir que Bayer, qui vient de racheter Monsanto, met 4 milliards d'euros par an en recherche et développement. Mais je peux vous garantir qu'avec la pression qui est en train d'être mise là, il va y avoir des alternatives qui sont trouvées.
La pression, elle n'est pas européenne, en tout cas, puisqu'ils ont accepté de continuer.
Non, elle est française. Mais je peux vous garantir que si dans les 3 ans, on n'a pas trouvé une alternative, il y aura la loi qui sera mise en place.
Une chose, Marie-Mogue, il y a juste un petit point politique quand même. J'en parlais tout à l'heure, Mathieu Orphelin, donc proche de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot déçu ce soir. Est-ce que c'est même plus une couleuvre là, je veux dire. Est-ce que de nouveau, ça marque sa réflexion pour l'été?
Oui, parce que je crois qu'on n'est même pas 15 jours après les déclarations de Nicolas Hulot qui disait bon, je réfléchis, est-ce que je sors ou pas du gouvernement, sachant que c'est une réflexion récurrente. On a calculé au Figaro que c'est à peu près tous les 25 jours qu'il se pose la question de son départ ou pas. Donc là, on se dit que oui, en effet, ça va accélérer un potentiel départ, puisque à chaque fois qu'on demande aux proches de Nicolas Hulot quel est son bilan, un an après son entrée au gouvernement, le glyphosate était un des dossiers qui était mis en avant, en disant, bah voilà, il a obtenu ça, ça va être inscrit dans la loi. À partir du moment où on voit qu'il y a un petit retard dans l'inscription dans la loi, peut-être que Nicolas Hulot va accélérer sa prise de décision.
Jérémy Pelletier. En fait, je crois que ce débat-là, et d'ailleurs, il est incarné dans l'opposition entre ces deux ministres. Ce débat-là arrive dans un moment, en fait, qui est charnière pour l'agriculture française. L'agriculture française, elle a été vue comme une activité de domestication, finalement, de la nature pendant des années et des années. Et aujourd'hui, elle doit passer dans une autre phase qui est une activité de protection de la nature. Et finalement, ces deux ministres incarnent ces deux moments-là, charnières. Et effectivement, ça arrive, le débat autour du glyphosate arrive dans ce moment-là. Et je pense que là, il va falloir tenir un discours de vérité, effectivement, auprès des agriculteurs. De fait, autour de l'agroécologie, évidemment, le modèle qu'ils ont connu au cours des dernières années et pendant des décennies ne peut plus être viable dans un moment où, effectivement, les débats autour de la biodiversité doivent être centrales, notamment pour penser à l'agriculture.
Voilà, c'est en tout cas, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et dans un instant, on parlera notre affaire. Bon, voilà, c'est celle d'Éric Woerth. On parlera également de Gérald Darmanin et de prestations sociales. Voilà la suite des informés de France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, face au soleil de l'actualité, ils n'hésitent pas à se tartiner de mon œil. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Sybille Vincendon de Libération, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil, Marion Mourgue du Figaro et Jérôme Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. On va revenir en ce début de dernière demi-heure sur l'un des faits aussi judiciaires de la journée, c'est Éric Woerth. Éric Woerth, que l'on connaît bien, ancien ministre à Nicolas Sarkozy, qui a été mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen, vous savez, de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette mise en examen de l'ancien trésorier de la campagne et actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et découle en fait d'investigations de la police anticorruption qui avait souligné dans un rapport de septembre 2017, je cite, l'ampleur de la circulation d'espèces dans l'entourage du candidat de la droite. Donc, mise en examen, Nicolas Sarkozy, hein, souvenez-vous, en mars, dans ce dossier. Marion Mourgue, c'est un dossier qui, alors, outre bien sûr, qui concerne Nicolas Sarkozy maintenant, Éric Woerth, mais qui continue à empoisonner la droite, ou pas? Aujourd'hui, où finalement, ils essayent de rompre les ponts un maximum avec le passé et...
Il y a les deux logiques. Oui, la nouvelle équipe des Républicains essaye justement de clore ce qui s'est passé avant, mais à la limite, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une mise en examen ne vaut pas condamnation. Et Éric Woerth répète, en tout cas, clame son innocence et il a le soutien des Républicains. Donc, après, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est 2 mois après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, donc c'est plus ça qui est plombant pour les Républicains, le côté petite musique sur les affaires.
Oui, on est encore là-dessus, sur ces affaires, sur toujours finalement encore ces affaires.
Ah, mais moi, c'est ce que j'appelle la vieille politique, donc avec tout un ensemble de pratiques qui existaient avant, qui paraissaient normales. Hein, je veux dire, là-dedans, il y a plein de choses autour de la campagne de Sarkozy également. Enfin, moi, je suis très heureux de voir qu'avec le renouvellement politique qu'on a eu l'année dernière, j'espère bien qu'on va s'éloigner de tout ça. Et Éric Woerth, j'espère qu'il va juste rendre compte devant la justice de ce qui s'est passé et qu'on va mettre un terme à un certain nombre de pratiques qui sont nauséabondes pour la République. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il ne faut pas, donner plus d'écho que ça parce que. Enfin, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il soit président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
Oui, exactement. Voilà.
Donc, ça va changer, je pense.
Oui, mais quand il est mis en examen, vous savez, vous n'êtes pas coupable. Hein, vous êtes entendu par la justice.
Absolument.
Voilà, c'est ça, voilà, il faut le dire.
Encore qu'il y a des jurisprudences qui sont un peu variées à cet égard.
Exactement. Est-ce que pour vous, voilà, on a encore dans ces affaires, est-ce que pour vous ça a changé? Voilà, ces genres d'affaires, est-ce qu'elles ne seraient plus possibles aujourd'hui où on est finalement dans...
Non, je ne suis pas assez naïve pour penser que ça ne serait plus possible aujourd'hui. Oui. Excusez-moi. Mais, c'est gentil de me la poser.
Bien sûr.
Mais néanmoins, sur le renouveau politique dont on parlait là il y a une minute, il y a deux voies pour le renouveau politique. Soit les macronismes en marche et tout ça, ça devient une sorte de miracle politique et qui renouvelle et qui rafraîchit la classe politique.
On peut rêver.
Mais ça n'est pas interdit. Soit dans l'opinion publique, c'est ravageurs sur le mode il reste plus que le Front National, il reste plus que ceux qui se prétendent être les mains propres et la tête haute, oui, c'est ça, ce sens-là. Donc c'est très dangereux quand même.
Oui, Jérémy Pelletier.
Non, mais je partage totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve en fait assez dangereux de constamment utiliser ce clivage entre vieux monde, nouveau monde, ancien monde, nouveau monde. Effectivement, on sait, il y a eu cette révolution de velours qui est passée dans notre pays, un renouvellement générationnel réel et sans doute souhaité au sein notamment de notre Assemblée nationale. Mais croire que ce type d'affaires, ou qu'en tout cas des affaires, ne pourraient voir le jour aujourd'hui parce que le personnel politique a changé, parce qu'il s'est renouvelé, je pense effectivement que c'est être naïf et qu'il faut faire très attention parce qu'effectivement ça peut être dévastateur. L'élection d'Emmanuel Macron, qui a effectivement évité l'arrivée des populismes dans notre pays, n'a pas enlevé et effacé la défiance qu'ont les Français envers les responsables politiques, envers les institutions de la République. Toutes les enquêtes d'opinion qu'on a récentes montrent qu'il y a toujours cette défiance réelle au sein de la population française, qu'il y a toujours cette impression qu'on ne dit pas forcément la vérité, qu'on ne comprend pas les problèmes des gens comme nous. Donc, il faut faire assez attention. Effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas effacé la défiance et renforcer continuellement le clivage entre les anciens étaient tous pourris et les nouveaux sont tous brillants, ça peut avoir des effets dévastateurs dans le cas où des affaires réapparaissent.
Éric Dano.
C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, je dis simplement il faut être vigilant. Enfin, je veux dire, ça fait un an qu'Emmanuel Macron a été élu et je peux vous garantir que depuis 30 ans, il n'y a pas un quinquennat dans lequel il n'y a pas eu une affaire. Donc, enlever l'ancrage de cette défiance-là en un an, ça n'a juste aucun sens.
Ça avait commencé avec François Bayrou.
Mais n'empêche qu'il y a une loi sur la confiance qui a été votée l'année dernière. On a commencé à travailler sur les conflits d'intérêts. Donc, évidemment, il ne faut pas être naïf sur le fait que ça ne se reproduira plus. Mais on a quand même, aujourd'hui, au pouvoir, à part quelques personnes dont on parlera peut-être tout à l'heure, des personnes moins politiques et entre guillemets plus normales, mais au sens noble du terme, pas au sens de notre ancien président.
Marion Mourgue, ce que disait aussi, c'est ça qui est intéressant, Jean-Yves Pelletier, sur la défiance par rapport aux politiques. Est-ce que ce genre d'affaire, même s'il s'agit d'un ancien président de la République, d'un ancien ministre, mais toujours en effet élu et aujourd'hui à la commission des finances à l'Assemblée, est-ce que ça implique de nouveau une défiance envers le monde politique?
Oui, mais de toute façon, cette défiance existe presque indépendamment des affaires. Et on sent qu'il y a un désamour croissant entre les Français et les politiques. Ce qu'il y a de vrai et qui se renforce chaque année, c'est une demande de plus en plus forte de l'opinion publique de transparence sur le patrimoine des élus, on l'a vu, sur leurs déclarations, sur leurs comportements. Ça, indépendamment de Éric Woerth, ça touche tous les partis, toutes les tendances politiques. Donc c'est plus ça qui se voit aujourd'hui. Et c'est vrai que là, les Français vont dire assez rapidement, bon alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et demandent des réponses assez rapides.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, il paraît que Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, est un fan de jeux de plateau. Vous savez, il adore les petits chevaux, la bonne paye et même le Cluedo. Et parfois, cette passion déborde un peu sur son quotidien. Vous lancez les dés, il compte 1, 2 et 3. Et vous tombez dans une trappe et vous passez votre tour. C'est vraiment marrant. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à utiliser le terme de trappe à inactivité concernant certaines aides sociales. Oui, en 2018, on utilise encore le mot trappe. Alors, pour lui, il y a deux types de prestations. Celles, je cite, légitimes, destinées aux gens qui seraient cassés par la vie, comme les allocations pour les handicapés et le minimum vieillesse, qui seront augmentées, dit-il, et celles attribuées entre deux périodes d'activité qui sont donc des trappes à inactivité et qui ne seraient pas assez incitatives, comme par exemple la prime d'activité. Le gouvernement entretient le flou sur ses intentions concernant les aides sociales. On ne connaît pas encore sa future mixture et même le ministre attend d'en savoir un peu plus et surtout de savoir de quoi il parle, Gérald Darmanin.
Il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ?
Il y en a beaucoup, alors je sais pas le nombre exact, je ne sais pas.
Le ministre du budget ne sait pas combien.
Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi de si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop.
Voilà, alors il y en aurait trop pour le ministre, mais alors ça fait polémique cet après-midi à l'Assemblée nationale et notamment du côté de la France insoumise et le député Alexis Corbière s'est adressé directement à Gérald Darmanin, on l'écoute.
Cette déclaration, une nouvelle fois, rend les chômeurs responsables de leur situation, puisqu'à ses yeux, ils ne sont pas assez incités à chercher du travail en raison de droits sociaux qui seraient jugés trop généreux. Provocation dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs. Malgré sa courtoisie d'apparence, cette pensée en direction des chômeurs se résume à un vulgaire « bouge-toi, feignasse ».
Voilà, donc Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Sylvie Vincent, donc, concernant les aides sociales, on a l'impression qu'en ce moment, il y a une sorte de cacophonie ou non-préparation au sein du gouvernement. Il y a la ministre de la Santé qui a expliqué qu'il n'y aurait pas de remise en cause des aides sociales. Contrairement à Bruno Le Maire, maintenant Gérald Darmanin, pourquoi ce n'est pas clair ?
Mais je pense que Gérald Darmanin, il est tout à fait fidèle à une pensée qu'on a très très couramment à droite, que les aides sociales, effectivement, empêchent les gens de se bouger le derrière, pour parler plus poliment que Corbière, et d'aller chercher du travail. Néanmoins, ce qu'il y a aussi qui est assez étonnant dans ce fond de sauce, c'est que, d'une certaine façon, on a l'impression que Darmanin ne voit pas le monde dans lequel il est. Certes, il y a eu une petite baisse du chômage, mais si le problème, si on en était à 5% de chômage résiduel, je pense que nous serions au courant. Et de fait, aujourd'hui, il n'y a quand même pas une facilité à trouver de l'emploi, surtout quand on est en chômage longue durée ou qu'on est peu qualifié. C'est pas si simple que ça, mais c'est une pensée de droite très courante.
Éric Delannoy, est-ce que là, justement, on est quand Bruno Le Maire dit si le chômage baisse, on va supprimer, on va baisser des prestations sociales. Est-ce que voilà, on est vraiment face à la réalité?
Moi, je pense que là, pour le coup, il y a un petit peu carton jaune, quoi. Hein. Donc, vous voyez, moi, je suis un homme libre.
Oui, bien sûr. Oui,
je suis un homme libre, chef d'entreprise. J'ai voté Emmanuel Macron parce qu'on était sur libérer et protéger. On a bien libéré et je l'en félicite. Maintenant, il faut qu'on protège plus. Et c'est pas avec des phrases comme ça qu'on va donner confiance sur la capacité à protéger. En revanche, dans la notion de « il y a trop d'aide sociale », je pense qu'il y a une mécompréhension et il faudrait arrêter d'ailleurs les petites phrases alambiquées et essayer de travailler sur le fond. Il est vrai que simplifier le système d'aide sociale ne veut pas dire qu'il faut les diminuer.
Alors ça, je précise juste, excusez-moi, c'est ce que voulait Emmanuel Macron pendant sa campagne. Lui, il veut un versement social unique qui regroupe toutes les allocations sociales, évoquant l'APL et le RSA. Voilà,
parce qu'il est vrai que le système d'aide sociale français, c'est un maquis incroyable qui fait que le taux de recours de ces aides-là, selon les prestations, est très faible. Si vous avez le RSA, vous avez quand même presque 40% des allocataires de RSA qui le mériteraient, qui ne vont pas faire les demandes. Ouais. Si vous avez la CS... Personne ne sait ce que c'est que la CS, une complémentaire santé que l'on peut avoir quand on a des revenus faibles et qu'on n'a pas la CMU. 70% des personnes qui pourraient l'avoir ne l'ont pas. Bref, le maquis d'aide sociale, alors Monsieur Darmanin ne sait pas qu'il y en a plus de 100, en fait, qui sont de l'ordre de la commune, qui sont de l'ordre du département, qui sont de l'ordre de la région, qui sont de l'ordre de l'État. C'est un maquis qui est effectivement quelquefois contradictoire et qui génère une inefficacité qu'il faudrait
mais
revoir.
Mais c'est vrai, Éric Delannoy, que le message en disant quand Elisabeth Martichoux d'RTL lui pose la question, qu'on dit « ne sait pas, très bien », mais que derrière il y en a trop, il dit « je sais pas, mais il y en a trop », ça veut dire que déjà c'est établi.
Qui en est
ça
trop
veut dire
au
qu'il
sens,
est au café du commerce.
Qui en est trop au sens « il y a un maquis ». qu'il faudrait revoir et simplifier, moi je suis d'accord. Qu'il y en ait trop au sens, et ça peut être compris comme ça, et c'est bien dommage, au sens il faudrait les diminuer parce qu'il y en a beaucoup, ça serait très dommage que dans la politique d'Emmanuel Macron, qui est très claire sur le sujet, dans les engagements de campagne, on puisse comprendre ça. Donc je ne soutiendrai pas les propos de Bruno Le Maire sur ce sujet.
Marion Morgue.
Ça donne plus l'impression que Gérald Darmanin s'est laissé emporter par l'envie peut-être de faire un bon mot, et parce qu'il était aussi assez tôt. Parce qu'il est.
Oui, non, mais c'est
ça. Ça compte aussi pour les politiques.
C'est matinale, voilà. Radio, vous savez.
Peut-être couché tard.
C'est, oui, mais peut-être. Bon.
Mais Gérald Darmanin, on ne peut pas lui enlever. Il est quand même élu du nord de la ville de Tourcoing. Il connaît la réalité aussi des aides sociales, des gens qui sont sur place. Et il est le représentant de la droite sociale et populaire. Donc ce qu'il a dit ce matin ne correspond pas vraiment, si on l'entend au premier degré, à ce qu'il pense. Mmh. C'est plus là où on a l'impression qu'il s'est laissé embarquer.
Oui, Eric, alors,
juste une petite phrase, parce que c'est vrai qu'on aime bien tacler les ministres sur ce qu'ils ont dit, mais Gérald Darmanin a aussi dit, je ne sais pas si dans la même interview, sur le fait qu'il faut revoir le système social sans jamais diminuer les prestations individuelles des gens.
C'était la semaine dernière.
Il l'a aussi
dit. Oui.
Donc on choisit l'une ou l'autre, mais en tout cas, je suis d'accord qu'il y a une cacophonie et qu'il faudrait arrêter et bosser.
Il y a un problème dessus. Est-ce que, alors, c'est là aussi, Jérémy Pelletier, quand on entend ce genre de propos, est-ce que ça va pas accroître l'image déjà du gouvernement œuvrant, comme on dit, pour les plus favorisés. C'est là aussi quand on entend ce genre de déclaration.
Alors, c'est vrai que ce sujet, il est très important pour la population. Vous avez tout à travers ce sujet. Vous avez tout ce qui concerne la solidarité et évidemment les questions de redistribution. Aujourd'hui, vous avez 77% des Français qui considèrent qu'il faut défendre le modèle social car il participe de l'identité de la France. Oui. Mais vous avez quasiment le même taux, vous avez 72% qui pensent que, effectivement, les aides sociales et ce système social favorisent l'assistanat. Le problème de cette cacophonie, effectivement, c'est que ça donne l'impression qu'il y aurait des aides légitimes, ce que vous disiez tout à l'heure, et des aides illégitimes. Comme si on pouvait finalement choisir avec qui on devait ou on pouvait être solidaire. Or, ça ne se passe pas comme ça. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très intéressant, mais effectivement, et je pense que c'est ce qu'il a oublié de dire dans son intervention, c'est que le problème aujourd'hui du modèle social, c'est sans doute sa trop grande complexité. Il a oublié de parler, effectivement, du grand taux de non-retour et des grands taux de non-recours que vous avez abordés. Nous, d'ailleurs, on y travaille à la Fondation Jean Jaurès, à travers ce qu'on fait sur le revenu de base, à l'intérieur duquel on intégrera sans doute un certain nombre de prestations sociales, et on travaille avec 13 départements pour ce sujet. Mais voilà, il ne faut pas que ça donne l'impression, et que la cacophonie donne l'impression que finalement, il y aurait des aides légitimes et légitimes, et qu'on pourrait choisir avec qui nous pouvons être solidaires dans ce pays.
Marion Morgan.
Mais en tout cas, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut simplifier. Et en effet, il y a les aides de l'État, des collectivités. Donc là-dessus, on sent que c'est la volonté du gouvernement et Bruno Le Maire.
C'est normal aussi qu'il y ait des aides différentes des collectivités selon l'endroit où on se trouve.
Bien sûr, mais qu'on puisse rationaliser.
La réalité sociale de,
et que tout le monde puisse se retrouver,
point n'est pas celle d'une grandeur.
C'est vrai, mais néanmoins, la réalité sociale, c'est que le non-recours, c'est je n'ai pas la bonne information, je ne sais pas faire les demandes et je ne sais pas faire le suivi. Et ces trois-là, c'est une catastrophe absolue qui nécessite qu'on travaille sur un guichet unique et qu'on travaille sur une simplification. Donc moi, je vais retenir ce sens-là des propos de Darmanin qui auraient été dans ce sens-là confirmé par Édouard Philippe.
Vous êtes moins mauvais esprit que nous, alors c'est ça, en fait,
moi, j'essaie d'être un peu positif,
oui,
si vous voulez.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça a donné cette impression-là.
Voilà, mais évidemment, suis d'accord.
Ce matin,
surtout que cette interview devait mettre fin à un autre couac qui avait lieu sur le même sujet.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est l'un des propos polémiques de la journée, ce tenu par Gérald Darmanin, ministre à l'action, voilà, faut le dire aussi, à l'action et des comptes publics, pour qui il y aurait peut-être trop de prestations sociales. Est-ce que, Sybille Vincendon, c'est un sujet aussi délicat, notamment depuis cette fameuse baisse des APL, c'était l'été dernier, on se souvient de ce que ça avait récolté, et même au sein de La République En Marche, récemment Julien de Normandie, ministre, avait dit que c'était une bêtise, tout simplement.
Et par ailleurs, c'est une bêtise financière pour les organismes HLM, mais on ne va pas rentrer dans les détails. En revanche, ce qui était frappant dans le portrait qui a été fait de Macron un an après, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, vous m'excuserez, qui était intitulé « La fin de l'innocence ». Donc il était très, très intellectuel sur la grandeur de la France.
Sur France 3, exactement.
Voilà. Ouais. Et à un moment donné, tout d'un coup, il pète un câble, mais très léger, en disant qu'on n'a pas la grandeur qu'il faut quand on se bat pour 50 euros d'APL.
Ouais, ouais.
Et là, il y avait un truc qui était quand même assez troublant sur le fait que ces combats pour les 50 euros d'APL étaient considérés, ils les considéraient comme nuls et non avenus, quoi. Mmh. Comme si ça n'était pas légitime de se battre pour des petites sommes qui ont à voir avec la vie quotidienne. Et il ne parlait même pas des comptes des HLM.
Alors, Marion Bock, c'est vrai que ces histoires, on le sent bien qu'il y a toujours ce fantôme des APL derrière concernant les prestations sociales. C'est quelque chose de récurrent qui est revenu depuis cet été. Depuis, et on voit bien qu'au sein, véritablement, de la majorité, ça s'est très mal passé, cette histoire d'APL.
Alors, c'est sûr que c'est mal passé et que ça a été mal compris, mais par l'ensemble même des Français. Il y a une question qui revient sur la table du gouvernement, c'est qu'il faut faire des économies. Donc on sent que le gouvernement cherche un peu partout. Le problème, c'est qu'au sein de la majorité, vous avez aussi des sensibilités très différentes. Et donc sur des sujets comme ça, comme les APL ou là les aides sociales, on voit aussi le « en même temps » et les difficulté à concilier les élus qui viennent plus de l'ancienne gauche, entre guillemets, et puis ceux de la droite.
Ça s'appelle la richesse. Mais un moment, c'est aussi ça le débat. Quoi, hein. Enfin, faut se rappeler que les appels, d'abord Emmanuel Macron avait lui-même dit que c'était une erreur et que c'était une bêtise. Hein, et il avait évoqué le fait que ça venait d'une note qui venait du ministère. Et tout ça, c'est connecté avec un mode de fonctionnement politique et qui est connecté, mais on ne va pas rentrer dans les détails, au fait que Emmanuel Macron a souhaité que les ministres aient des cabinets qui soit en nombre restreint, oui, pour que les cabinets puissent travailler beaucoup plus avec les têtes d'administration. Sauf que les têtes d'administration, quelquefois, la manière de résister, c'est de faire des fuites et de lancer des notes sur lesquelles, manifestement, il y a des couacs. C'en était un à l'APL.
Et d'ailleurs,
quand Emmanuel Macron était revenu sur ces couacs, il avait appelé les ministres à mieux maîtriser ses administrations, si vous en souvenez bien. Exactement. Donc, les erreurs, c'est aussi humain, quoi. Enfin, heureusement que cet homme-là n'est pas un homme parfait. Enfin, qu'il fasse une interview sur France 3
Vous savez, quand vous dites ça, le problème, c'est que ça concerne aussi la vie de beaucoup d'étudiants.
Oui,
dans
ce cas-là, le gouvernement aussi a augmenté le minimum vieillesse, il a augmenté le minimum. Enfin, il faudrait aller complètement sur les mesures sociales qui ont été mises en place.
Je voudrais revenir sur l'histoire des cabinets à petit effectif. Je pense que c'est tout à fait une fausse bonne idée. On a des gens qui sont épuisés, tellement épuisés que de toute façon on a recours à pas mal d'intérim et vas-y les stagiaires, et en même temps on a une administration qui elle arrive en force dans le rôle du sachant. Quand il s'agit de Bercy, il faut voir que n'importe quel élu parlementaire depuis un petit moment, qui a un peu de bouteille, dit les APL, ils ont essayé à Bercy de nous les fourguer à chaque changement de présidence, à chaque mandat nouveau. Donc, sauf que là, les cabinets n'étaient plus en position de force pour dire le politique, c'est ça.
L'un des sujets autour de ces phrases, notamment autour des prestations sociales, mais aussi autour des APL, au-delà effectivement du fait que ça concerne effectivement la vie des gens, c'est la violence symbolique, en fait, de ces propos. Et effectivement, on a beaucoup parlé et commenté les enquêtes qui ont été faites au bout d'un an, effectivement, de l'élection d'Emmanuel Macron. Ce dont on s'apercevait, c'est que vous aviez une grande majorité de Français qui considéraient que la politique menée n'était pas du tout en faveur des classes moyennes et des classes populaires, qu'elle était totalement en défaveur des classes populaires et des classes moyennes. Vous avez aujourd'hui un sondage qui est paru hier, vous avez plus de 50% des Français qui considèrent que les inégalités ont augmenté depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas une relation de cause à effet, évidemment, mais c'est une perception. C'est qu'à un moment donné, ça doit reposer effectivement sur de la vie et sur des choses concrètes. Donc le problème, c'est que ces petites phrases-là, quand bien même ça répond à des réalités, à commencer par la complexité vis-à-vis des prestations sociales dans ce pays, le problème de ces petites phrases, c'est la violence symbolique. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus fort et qu'est-ce qui est le plus audible? Et donc, est-ce que c'est les phrases vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis d'une certaine classe sociale de la population, ou bien sont des phrases et des discours auprès du peuple et des classes populaires de ce pays? Là, pour le moment, il y a un certain déséquilibre et qui a un impact, en tout cas, dans les enquêtes d'opinion auprès de cette population.
Il nous resterait peu de temps, Edouard Hanois. Que vous voulez répondre.
Je pense qu'il y a un manque de pédagogie. Moi, je mets ça là-dessus parce que, par ailleurs, il fallait être mardi à l'Élysée pour voir le non-plan banlieue qui a été présenté. Il y a un ensemble de mesures en faveur des personnes défavorisées qui sont très importantes. French Impact, 1 milliard d'euros sur la table pour favoriser l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas rien. Et il y a d'autres mesures comme celle-là. Il y a un manque de pédagogie.
Qu'on en parlera. D'accord. Vraiment. Et moi, je vous promets, on vous réinvite. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci beaucoup, Jérémy Pelletier. La Une du Figaro, Marion Mourgue, demain.
Eh bien, on revient sur le plan d'Emmanuel Macron pour séduire les chasseurs.
Très bien. Et Sylvie Vincent Don, La Une de Libération.
transition parfaite, nous on revient sur les lobbies.
Très bien, et ben voilà, voilà, et ben on se complète. Ça tombe bien, voilà, c'est formidable la presse française. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour toutes les politiques au programme ce soir.
Bon, nous parlerons bien évidemment de terrorisme, mais également des aides sociales, vous l'évoquiez à l'instant, de crise italienne, de SNCF, de glyphosate, avec nos invités Bruno Fuchs du Modem, Philippe Gosselin des Républicains, Sébastien Chenu du Front National et Jean-Jérôme Bertolus de France Info.
Mais bien sûr, voilà, je suis au service politique, allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.